être naturel. Nous nous connaissons bien et aujourd'hui on a décidé d'innover encore. Alors, nous avons trouvé des invités aujourd'hui qui, à la fois, s'étaient épanouis au niveau personnel. Il s'agit de Nathalie Balassé qui va témoigner, et aussi des personnes qui s'impliquent, des acteurs qui s'impliquent au quotidien dans notre environnement et qui veulent le faire bouger d'une manière intelligente et pour le bien de tous. Alors, eh bien, ne quittez pas l'antenne. Nous avons invité d'abord en premier Johan qui nous a dit « Je vais mettre en œuvre une forêt comestible ». Oh là là, une forêt comestible, est-ce qu'on va manger du chêne? Non, eh bien, on va écouter Johan qui va nous expliquer ce qu'est une forêt comestible et comment peut-on faire pour en créer une et quel est le retour, quel est le bienfait que l'on peut en espérer. Ne quittez pas, c'est à Johan. Alors, bonjour Johan.
Bonjour.
Alors, pourquoi nous avons invité Johan? D'ailleurs, il a un beau ciel bleu derrière nous et ça nous rend malade, mais c'est pas pour ça qu'on l'a invité. On l'a invité parce qu'il nous a dit « je transforme des terres en jachère en forêt comestible ». Alors, oui, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, c'est quoi une forêt comestible? Alors, pourquoi d'abord des terres en jachère? Parce que souvent, c'est des consignes européennes qui ont mis des champs en jachère avec des subventions. Et pourquoi les transformer? Et qu'est-ce que c'est qu'une forêt comestible? Voilà, il a toutes les questions.
Alors, une forêt comestible, c'est s'inspirer de la nature, s'inspirer d'une forêt naturelle pour produire notre alimentation. C'est-à-dire qu'on va s'inspirer d'une forêt sur pas mal de points. Déjà, on va partir d'espèces endémiques locales. Donc ici, on va utiliser le chêne, l'acacia, des arbres qu'on trouve en forêt naturellement présentes. On va les introduire sur donc anciennement en jachère, sur notre site anciennement en jachère. Et au milieu de tous ces arbres locaux, on va introduire aussi des fruitiers, mais aussi des lianes, puisque les lianes telles que le kiwi ou la vigne sont des lianes et peuvent très bien parcourir les grands arbres. Et tous ces arbres vont aussi protéger des plantes médicinales à leurs pieds ou des petits buissons ou des cultures maraîchères. Les cultures maraîchères, elles, vont plutôt être à des endroits sous forme de clairière un petit peu, parce qu'elles ont besoin de plus de lumière. À d'autres endroits, on aura des endroits vraiment très très denses. Et le but est vraiment reproduire un peu comme une forêt naturelle, mais à vocation de production alimentaire.
Oui, c'est pas un verger, quoi. C'est pas un
Non,
verger,
c'est...
c'est des arbres que vous introduisez dans un milieu. Alors, ils sont quand même introduits dans un milieu qui n'est pas tout à fait le leur.
Tout à fait. Mais on part essentiellement de semis aussi. Et le but est de mélanger tout ça et vraiment que ça ait un aspect naturel. Chez nous, il y aura aucun... les arbres ne seront jamais alignés tous les 9 mètres. Il y aura vraiment un aspect beaucoup plus bucolique dans notre exploitation que ce qu'on peut connaître habituellement.
Alors, c'est une démarche, même une démarche personnelle, si j'ose dire, que vous avez faite, c'est-à-dire c'est d'un retour à la terre, mais dans le bon sens du terme, retour à la terre, c'est-à-dire retrouver ses racines et en fait faire profiter de vos racines à tout le monde, quoi.
C'est ça, c'est ce que donc moi j'ai grandi dans le milieu. On va dire agricole, parce que j'ai passé toute mon enfance dans un potager ou dans une ferme. Mon parcours scolaire et professionnel a lui été différent avant que je prenne conscience que c'était vraiment vers ça que je voulais retourner. Donc ça fait plus de 15 ans que je me suis mis au maraîchage. Au début pour moi et puis aussi pour expérimenter toutes sortes de techniques qu'on peut voir un peu de partout entre la permaculture, l'agroforesterie. On lit un peu de tout sur tout, et donc j'ai voulu tester tout ça par moi-même pour justement ce qui a conduit au modèle de forêt comestible de la forêt de Illhaas.
Alors justement, est-ce que c'est un modèle économiquement viable? Parce que c'est une bonne idée, c'est vrai, et on a tous envie de réaliser des rêves comme ça, mais est-ce que c'est parce que le maraîchage, il y a pas mal de vos collègues qui sont en difficulté en ce moment, même dans le maraîchage bio, c'est pas si évident que ça. Alors est-ce qu'une forêt comestible, c'est un bon business plan pour employer un terme complètement horrible?
Alors, pour parler en termes horribles, effectivement, nous avons construit des prévisionnels, business plans, etc. Nous avons travaillé, nous avons eu des chiffres, par des organismes sur des fermes existantes qui fonctionnaient et qui ont sorti des chiffres, assez intéressants et même bluffants pour beaucoup. Donc, on espère que oui, ce sera très viable. D'ailleurs, on démarre déjà à 1,5 employés et on espère, monter à 7 employés d'ici 10 ans. C'est-à-dire, on espère même recréer de l'emploi dans le milieu agricole, puisque là où un maïsiculteur a besoin de 100 hectares pour sortir un SMIC mensuel, nous, on espère sortir 7 SMIC mensuels sur 7 hectares, donc c'est-à-dire un SMIC à l'hectare. Et
D'accord,
ça,
écoute.
sur plusieurs ateliers, puisque à notre forêt peut se greffer un atelier apiculture, un atelier héliciculture, un atelier transformation. Et donc tout ça, c'est, je pense, aussi des choses à relocaliser, et donc qui sont en plus bénéfiques pour tout l'écosystème du lieu.
Et alors, comment vous êtes accueilli par les agriculteurs plus classiques, j'allais dire, parce que quelquefois, il y a des oppositions qui se créent.
Alors, c'est ça, je vais vous dire, c'est à peu près 50-50. Il y en a moitié qui me rient au nez, voilà, bon, tant pis. Et moitié qui, par contre, sont intéressés, me filent même un coup de main pour voir comment ça se passe et qui sont prêts à, justement, s'inspirer de nos méthodes si ils voient que ça fonctionne.
Et
Il
alors,
reste...
c'est pas trop compliqué de recueillir les fruits comme ça au sein d'une forêt, parce que quand on voit les vergers alignés avec l'automatisation et tout, là vous allez avoir besoin de personnel effectivement, mais aussi
Tout à fait.
de plus de plus d'applications, non? C'est pas.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on a besoin d'un peu plus de personnel qu'une exploitation standard. Et c'est pour ça qu'on va aussi produire des produits, on va dire, à forte valeur marchande, qui sont par exemple les baies de goji, les citrons caviar, l'héliciculture aussi est un bon moyen de bien rentabiliser son affaire. Il y
Vous avez pas.
a pas mal de petites niches comme ça à utiliser, qui peuvent être très intéressantes et qui sont très recherchées actuellement.
Vous n'allez pas concurrencer la fraise espagnole, quoi. C'est pas votre
Non,
truc.
pas du tout. Ce n'est pas le but.
Alors, ça s'appelle comment votre forêt? Enfin, elle s'appelle comment? On peut la voir comment? On peut aller sur quel site? Et est-ce qu'éventuellement, alors je ne sais pas, est-ce que vous avez un système associatif? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut éventuellement, je ne dis pas prendre des parts, mais est-ce qu'on peut s'associer à votre opération en retenant, je ne sais pas, ou en parrainant un arbre, je ne sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais est-ce que ça existe? Est-ce que vous avez prévu ce genre de participation?
Alors
Parce que
nous avons...
la démarche est souvent une démarche humaine en même temps qu'une démarche environnementale.
Tout à fait, c'est ça. On essaie d'être un peu sur tous les tableaux. On essaie de
Oui.
faire au mieux, en fait. Et donc oui, nous avons un site internet qui est donc forêtdehigas.fr, tout attaché. Igas, ça s'écrit Higas. Donc
Oui.
forêtdehigas.fr. En première page, vous trouverez un petit lien vers un crowdfunding si vous souhaitez nous donner un petit coup de pouce. Et vous parliez de parrainage d'arbres, et ben justement, on avait fait ça il y a 2 ans, et ça avait plutôt bien fonctionné, les gens étaient très intéressés, donc on va le remettre en place là, je pense, début février, pour l'ouverture officielle de la forêt du Higas, qui a lieu justement, là, nous attendons plus que le retour des administrations, et nous avons enfin réussi à monter cette affaire après plus de 2 ans, d'administratif, long et tortueux.
Alors, on le répète, forêtdehigas.fr. Pour ceux qui veulent venir éventuellement sur rendez-vous, je pense qu'on peut venir
Bien
visiter.
sûr.
Visiter. Alors, c'est un petit peu dans le nord des Sudlandes, du Sudland, quoi, un petit peu.
C'est ça, c'est tout au sud des Landes. Nous sommes à 5 km du Pays Basque, mais
Ouais.
très à l'est dans les Landes.
D'accord, un peu l'intérieur du terrain, l'intérieur
C'est ça.
du lieu.
Nous sommes
Ok.
presque à Orthez.
Voilà. Eh ben, écoutez, c'est bien. Merci beaucoup, Johan. Et puis, eh ben, on se
Merci à vous.
permettra de vous rappeler peut-être dans 1 ou 2 ans pour voir comment ça fonctionne, hein. Parce que
Avec grand
effectivement,
plaisir.
il y a d'autres expériences qui existent. On avait la forêt, les Chevaliers de l'Astrée qui avait existé dans l'Indre-et-Loire, je crois, qui fait la même chose un petit peu. Et je crois que c'est une bonne idée. Et en tout cas, c'est une façon de redonner du sens à l'agriculture. Et je crois que ça, c'est quand même essentiel. Et puis, ils nous permettent de bien manger, ce qui est aussi ultra important. Merci beaucoup,
Tout à fait.
Johan. À
Merci à
bientôt.
vous.
Au
À bientôt.
revoir.
Au revoir.
Toujours sur le journal de la santé et du bien-être naturel, docteur Labesca, vous avez écouté Johan qui nous a expliqué comment on pouvait monter une forêt comestible, même quand on n'est pas un agriculteur et qu'on n'a pas eu une ferme dont on a hérité. Et si l'opération a pu avoir lieu, eh bien c'est un peu grâce à Vincent. Alors, qu'est-ce que fait Vincent? Eh bien, Vincent, il essaie de faire un peu la liaison entre des fermes qui sont abandonnées ou qui vont l'être et qui n'ont pas de repreneurs, et puis des agriculteurs, de nouveaux agriculteurs qui veulent réagir un petit peu différemment, mais qui n'ont pas toujours les moyens et qui n'ont pas toujours le service bancaire derrière pour réaliser leurs rêves, qui ne sont pas des rêves d'ailleurs complètement incongrus, qui sont des rêves souvent pour le bienfait de l'humanité, en tout cas de l'écologie et de l'environnement. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'a créé, donc, je vous l'ai dit, Vincent, eh bien, une société qui s'occupe justement de financer ces terres agricoles pour des néo-agriculteurs qui veulent agir un petit peu différemment et qui veulent respecter la planète dont on est locataire, qu'on a eu en option et qu'on risque de rendre en mauvais état. Alors, on écoute Vincent nous expliquer ce en quoi comment fonctionne sa société et comment on peut peut-être même l'aider. Parce que investir dans du foncier agricole, c'est peut-être mieux et en tout cas plus humainement correct que de s'instruire en bourse ou d'investir en bourse. Voilà, on investit dans le foncier, on n'investit pas en bourse et les résultats, les dividendes seront beaucoup plus humains que la bourse, du moins, c'est notre avis. Ne quittez pas, on écoute Vincent.
C'est bon. Alors, bonjour Vincent.
Bonjour Jacques.
Alors, pourquoi on a invité Vincent Crosse? Parce qu'il participe à une opération dont on a parlé déjà il y a quelques jours, qui s'appelle Forêt Comestible. Et c'est là qu'on a découvert qu'en fait, il avait créé une entreprise, une start-up en quelque sorte, qui veut régler un double problème, c'est-à-dire le problème des fermes qui n'ont pas de successeurs, et le problème des agriculteurs ou des néo-agriculteurs qui trouvent pas qui trouvent pas de terre pour pouvoir développer une agriculture respectueuse de l'environnement. Je crois que c'est un terme qui vous convient bien, ça.
Oui, tout à fait. Oui, c'est bien ça.
Alors donc, qu'est-ce qui donc vous avez fait des études classiques d'ingénieur, j'allais dire. Vous n'aviez pas les mains dans la terre. Qu'est-ce qui vous a amené les mains dans la terre?
Non, ouais, pas du tout. Alors, en effet, j'ai fait une école d'ingénieur. Suite à ça, j'ai travaillé un petit peu dans la banque et puis j'ai monté une première entreprise dans la téléassistance pour personnes âgées que j'ai cédée à une mutuelle il y a quelques années. Et suite à ça, j'avais envie de réentreprendre et de remonter une entreprise je voulais absolument que cette entreprise ait un impact positif sur l'environnement. Je me suis intéressé à pas mal de choses qui touchent à l'environnement et assez rapidement, je me suis focalisé sur l'agriculture qui fait face à de nombreux enjeux environnementaux avec des enjeux liés au carbone, à la biodiversité, à l'eau, ainsi qu'à diverses pollutions et également qui fait face à des enjeux sociaux et sociétaux. Et donc je me suis intéressé au sujet en me disant qu'il y avait certainement des choses à faire pour essayer d'améliorer ce secteur.
Alors, comment fonctionne en fait ferme en vie? Ça s'appelle ferme en vie. Comment fonctionne ferme en vie? C'est-à-dire que vous avez des actionnaires, vous cherchez des actionnaires, vous cherchez des personnes qui prêtent à investir directement à travers vous dans la terre.
Ouais, alors le fonctionnement, c'est que on a pour aider justement à la transition agroécologique et au renouvellement des générations, comme vous le disiez tout à l'heure, on a créé une foncière qui a fonctionnement assez simple, puisque cette foncière, elle va acheter des fermes pour ensuite les mettre à disposition de porteurs de projets qui souhaitent s'engager sur des projets en agroécologie sous forme d'une location avec option d'achat. Et cette foncière, elle est financée par des particuliers qui sont des actionnaires de cette foncière, qui décident d'utiliser une partie de leur épargne pour financer l'acquisition des fermes qui sont mises à disposition de ces porteurs de projets. Et donc, aujourd'hui, on a des particuliers qui mettent entre 500 euros et quelques centaines de milliers d'euros pour les plus gros investisseurs. Mais voilà, on a presque 600 personnes qui ont investi dans la foncière et qui font aujourd'hui qu'on a des sous pour pouvoir financer quelques projets. On en a déjà financé 7 aujourd'hui. Enfin, ça, c'est à ces montants-là, et on a un objectif d'en financer entre 10 et 15 cette année.
Alors, vous nous avez dit en antenne que vous aviez 500 hectares pratiquement sous votre contrôle.
Oui, tout à fait. Alors, sous mon contrôle, oui, la foncière est propriétaire de un peu plus de 500 hectares. C'est 7 fermes qui sont situées aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, en Normandie. Et qui sont loués à 10 agriculteurs et agricultrices qui se sont installés sur différentes pratiques, sur ces différentes fermes.
Alors, quel est le profil du j'allais dire du néo-agriculteur, mais du moins de quel est votre client, c'est qui?
Alors c'est de toute façon une personne qui va pas hériter des terres de ses parents. Donc c'est ce qu'on appelle dans le secteur des hors cadres familiaux, donc des gens qui vont s'installer mais qui n'ont pas famille directe déjà agriculteur. Et donc ça peut être soit des personnes qui ont tout de suite fait une formation agricole. Et qui ont travaillé pendant quelques années sur des fermes, mais qui aimeraient démarrer leur activité à leur propre compte. Soit c'est des gens qui sont en reconversion, qui ont fait autre chose avant et qui se sont reconvertis, qui se sont formés à l'agriculture et qui souhaitent s'installer sur une ferme. Donc on a un peu ces deux profils-là.
Alors comment vous sélectionnez les dossiers? On vous contacte donc, on vous propose un dossier, parce que j'ai vu que souvent c'était même des personnes qui avaient peut-être été refusées par les banques ou par les circuits classiques de financement.
Alors, en effet, les personnes qui viennent nous voir, en fait, on a deux façons pour faire des projets. Soit on identifie des fermes sur lesquelles on pense qu'il pourrait se développer un joli projet et on lance des appels à candidature pour essayer de trouver des porteurs de projets qui pourraient s'installer sur ces fermes. Soit on a directement les porteurs de projets qui ont entendu parler de nous et qui nous contactent nous proposer de financer leur projet, auquel cas ils nous présentent leur projet et nous on va s'occuper de vérifier que leur projet nous semble viable d'un point de vue économique, qu'il est conforme à une charte agroécologique assez ambitieuse qu'on a définie et qu'on achète aussi la ferme à un prix correct. Et si toutes ces conditions sont réunies, on organise l'acquisition. Voilà.
Alors en pratique, dans les deux sens d'ailleurs, j'ai un projet à vous soumettre, comment je fais? Je vais sur le site, j'établis un
Donc
contact. Alors,
ouais,
quelle est l'adresse de votre site déjà?
le site c'est www.feve.co, donc feve.co. Et en effet sur notre site on a un formulaire, on a deux formulaires en fait pour les porteurs de projet. Soit un formulaire où le porteur de projet a déjà trouvé sa ferme et nous dit bah voilà j'ai déjà trouvé ma ferme et qui nous donne quelques informations sur cette ferme. Puis nous le recontactons pour essayer de bien comprendre son projet et puis de l'analyser avec lui. Soit on a également une page sur laquelle on met en avant différentes fermes qu'on a déjà pré-identifiées et les porteurs de projets qui sont potentiellement intéressés par ces fermes peuvent répondre à ces appels à projets en envoyant leur candidature et ensuite nos équipes s'occupent d'analyser ces candidatures avant de les recontacter.
Alors ça, c'est pour si on veut vous soumettre un projet et si on veut financer, vous aider à financer un projet.
Et alors ouais parce qu'on a deux branches en effet dans le site. On a une branche qui est dédiée plutôt aux porteurs de projet et une branche dédiée aux investisseurs. Donc pour les gens qui veulent investir, tout se fait aussi en ligne. Donc il y a la possibilité de signer un bulletin de souscription en ligne, puis de valider la souscription par un virement. Avec beaucoup d'informations qui sont déjà en ligne. Et puis moi j'organise une fois par semaine des sessions d'information collective pour répondre à toutes les questions que pourraient avoir les citoyens qui cherchent à investir et qui souhaiteraient investir dans ce projet.
En sachant
Avec une
que
inscription qui se fait aussi en ligne sur le même site.
si on investit sur une foncière, on a moins de risques que si on investit dans la bourse.
Oui, alors en effet, en tout cas, si on regarde ce qui s'est passé d'un point de vue historiquement, le prix du foncier agricole à une valeur qui est très peu volatile, qui a progressé assez régulièrement dans le temps. Donc on n'est pas du tout sur les volatilités des prix de bourse. Donc c'est pas exactement les mêmes risques. Et donc en effet c'est quelque chose, c'est un investissement dans la terre agricole, c'est plutôt considéré comme un investissement de bon père de famille relativement peu risqué. Après comme dans chaque investissement, il n'y a jamais zéro risque. Hein.
Et alors selon un mode qui est presque un peu coopératif, puisque vous nous avez dit que, enfin, sur votre site, il est indiqué au moins que vous ne versez pas de dividendes, mais que tous les bénéfices sont réinvestis pour faire d'autres opérations.
Exactement, ouais, tout à fait. C'est l'objectif. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de retour sur investissement pour les investisseurs, hein. Les investisseurs, ils ont deux choses qui leur permettent de rendre l'investissement intéressant. La première, c'est qu'ils bénéficient d'une réduction d'impôt lorsqu'ils investissent dans la foncière, à hauteur de 25% du montant qu'ils investissent. Et la deuxième, c'est que la part de la foncière, elle est réévaluée une fois par an. On a un objectif d'une réévaluation d'à peu près 2% par an dans les prochaines années.
D'accord. Bah écoutez, je crois qu'on peut aller sur votre site, alors feve.co, et puis bah soit pour soumettre un projet, soit pour éventuellement financer. Et puis bah, on vous rappellera dans quelques temps pour savoir comment vous évoluez. Il y a combien de temps que vous existez?
Ça fait 1 an et demi que la foncière existe. Et donc, depuis juillet 2021, comme je vous disais, 6 millions, on a collecté 6 millions d'euros, on a financé 7 projets et on a pas mal de projets qu'on a en cours là. Et donc, l'objectif, c'est d'en financer entre 10 et 15 cette année.
Eh bien, on se donne rendez-vous dans un an.
Très bien, ça marche.
Bonne
Merci
journée,
beaucoup.
Vincent. Au
Vous
revoir.
aussi. Au
Au
revoir.
revoir. Vous êtes allé au bout du journal de la santé et du bien-être naturel. Vous avez bien fait, parce que j'espère que non, les forêts, les nouvelles agricultures vous ont intéressé. Mais là, on va encore plus vous étonner. Et oui, plus vous étonner parce que, vous le savez, je suis médecin. Je suis médecin tout à fait classique, même si j'ai tendance à soigner par les plantes et à appliquer des méthodes d'ostéopathie. Mais là, j'ai invité, ou j'ai du moins j'ai demandé à un témoin de nous dire, de nous raconter son expérience qu'elle a vécue auprès des guérisseurs philippins. Alors attention, attention, je ne m'engage pas. Je vous donne un témoignage. Il se trouve que ça a bien marché pour Nathalie Balassé, que ça n'a pas l'air dangereux du tout, et que ça peut être efficace et rendre beaucoup de services. En tout cas, on a son témoignage, vous l'écoutez, vous vous faites votre idée, et puis ben, plus y affinité. Ce n'est pas classique, et ce n'est pas classique de la part d'un médecin de vous parler de guérisseur philippin, je le reconnais, mais pourquoi occulter le problème et pourquoi occulter cette façon de soigner qui semble donner des résultats? Après tout, si on est un peu pragmatique, c'est le résultat qui compte. Alors on écoute Nathalie Balassé qui nous témoigne de son voyage en Philippines et de son passage aux mains des guérisseurs philippins. Alors, bonjour Nathalie Balassé.
Bonjour, docteur Labesca.
Alors, pourquoi nous avons invité Nathalie Balassé? On l'a déjà invitée une première fois parce qu'on avait reçu son premier livre. Je crois qu'il y en a d'ailleurs bientôt dans les sous-presses. Elle avait écrit dans son premier livre qu'elle s'était guérie de la spondylarthrite ankylosante. Alors, la spondylarthrite ankylosante, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, c'est une maladie inflammatoire invalidante. Qui n'est pas mortel, malheureusement, j'allais dire presque, mais et qui est très invalidante, c'est-à-dire que les inflammations au niveau articulaire font qu'on devient pratiquement qu'on peut plus bouger, quoi, qu'on est vraiment, et que le matin à démarrer est une difficulté. Je vais pas expliquer pour Nathalie qui le connaît bien, malheureusement, qui l'a vécu et qui un jour a eu une sorte de pas de révélation spirituelle, mais presque, en se disant, j'en ai assez d'être malade, je vais guérir. Est-ce que j'ai résumé ça correctement?
C'est exactement ça. C'était vraiment un déclic où j'ai dit, ben, c'est maintenant il faut que je prenne ma guérison en main puisque personne pouvait me guérir. Voilà, j'avais pas de résultat avec les traitements, donc il fallait bien que je fasse autrement.
Voilà, donc elle a utilisé beaucoup, beaucoup de méthodes, mais aujourd'hui on l'a invitée parce qu'elle nous a dit, je suis allée me faire soigner aux Philippines. Alors là, attention. Danger, parce que on s'est dit, voilà, on va avoir affaire à des manipulateurs philippins, là, des gens qui sont des prestidigitateurs. Et connaissant Nathalie, on lui fait quand même confiance et on lui dit, est-ce que ce sont vraiment des prestidigitateurs, des manipulateurs, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière l'aspect comme un iceberg? Est-ce qu'on ne voit qu'une partie apparente et qu'en fait derrière il y a beaucoup plus que ça?
Alors, oui, il y a beaucoup plus. Et vraiment, moi, je suis d'ailleurs reliée à eux par le cœur en permanence. C'est très souvent que je pense à eux parce que je les remercie pour ce qu'ils ont fait pour moi. Parce que, donc, quand j'y suis allée, effectivement, J'ai pu voir. Alors, j'y suis allée avec un groupe, avec l'agence de voyage qui organise des voyages dits plutôt spirituels. Donc, je suis allée avec Oasis Voyage, qui organise des voyages dans différents pays. Mais moi, ce sont les Philippines qui m'attiraient et je ne savais pas pourquoi. Peut-être que dans d'autres vies, j'ai habité là-bas, j'en sais rien, je ne sais pas. En tous les cas, j'étais attirée par les Philippines. Parce qu'il y a d'autres guérisseurs ailleurs. Il y en a au Brésil, il y en a bien sûr en Inde, il y en a partout dans tous les pays en fait. Mais c'est les Philippines qui m'attiraient. Et effectivement, il y a beaucoup de gens hein, qui disent que c'est de la supercherie, que c'est du n'importe quoi. Mais moi, vous savez, quand on est très malade, on a envie de tout essayer. On a envie de guérir, enfin. On cherche toutes les solutions. Et donc, ça faisait très longtemps déjà que je regardais, mais ma petite était. Moi, je venais, en fait. Il faut savoir hein, que la maladie s'est déclenchée avant ma grossesse. Hein, mais pendant la grossesse, ça a pris une ampleur impressionnante. Puisque je pouvais pas rester plus de 3 heures dans la même position. 3 heures allongée, 3 heures assise, 3 heures debout. Et tout était extrêmement douloureux. Donc je venais d'accoucher de ma petite. Donc évidemment, j'allais pas partir alors que mon bébé avait besoin de moi, même si malheureusement, je ne pouvais pas vraiment m'en occuper puisque je la confiais à une nourrice parce que je ne pouvais même pas la tenir dans mes bras. Tellement c'était, en fait, je souffrais dans tout mon corps, hein. Et donc j'ai dû attendre quelques années avant de pouvoir partir aux Philippines. Et en plus, quand j'ai voulu m'inscrire, il y avait 1 an et demi d'attente.
Alors,
Donc
vous nous faites languir là. Vous nous faites donc vous êtes parti. Vous étiez vraiment pas bien. Vous étiez presque en fauteuil roulant. Enfin, vous le disiez qu'il y avait des moments où vous utilisiez malheureusement des supports parce que pour vous déplacer. Et donc
oui.
vous êtes arrivé aux Philippines. Et alors?
Oui. Donc oui, j'étais vraiment pas bien. Je passais 10 à 15 jours sous morphine par mois. Donc il faut le
D'accord.
savoir. Hein, voilà. Donc,
Alors,
mais
vous
par contre,
arrivez là-bas.
à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter tous les traitements, j'avais tout arrêté. Donc là, je souffrais encore plus, vous imaginez bien, parce que là, j'avais plus de support de morphine ni de rien du tout. Donc quand j'arrive là-bas, eh bien, déjà, il y a 20 heures de transport à peu près, hein, entre l'escale et l'arrivée. Et donc, ben, déjà, on a été accueillis par des Philippins, Philippines, qui nous ont mis des colliers de fleurs autour du cou, et puis qui nous ont indiqué nos chambres très rapidement, parce qu'on est arrivé l'été minuit. Et moi, en fait, donc il y a un gros décalage horaire. Donc à 4 heures du matin, j'étais debout. Donc je me suis levée et j'ai rencontré. Donc il y a une autre personne qui s'est levée du groupe aussi. On n'avait pas pu faire connaissance. On ne savait pas qui était qui, en fait. Hein, et puis en plus, on était bien fatigués de notre voyage dans le transport, donc on n'a pas communiqué. Mais donc, il y a une personne qui s'est levée et qui était dentiste. Et donc, cette personne, elle me dit, ben, pourquoi tu viens aux Philippines? Alors, je lui explique. Et lui, je lui dis, ben, pourquoi tu viens? Ben, il me dit, parce que j'ai un mélanome. Donc, c'est important que je vous parle de cette personne parce que vous allez voir, en fait, hein, ce qui s'est passé par la suite. Et donc, il me dit, donc un mélanome, donc bon, vous savez bien ce que c'est, ou peut-être que je peux vous laisser la parole là-dessus.
Non, non, oui, un mélanome, c'est un cancer de la peau, quoi. C'est une forme cancéreuse, c'est-à-dire que c'est quand un évus, enfin ce qu'on appelle un évus, c'est-à-dire un point noir de la peau, on le met trop au soleil ou pour différentes raisons, dont génétiques, il s'étend, il change de couleur, il change d'aspect, enfin bon, il devient un peu comme une carte de géographie. C'est là où il faut voir, c'est effectivement un dermatologue, parce qu'il y a un risque de mélanome, et malheureusement, les mélanomes ont une propension à s'étendre au niveau osseux après avoir des métastases. C'est ça le problème du mélanome, c'est que ça reste pas in situ, ça se localise dans tout le corps. Voilà. Mais vous, ah oui, d'accord, le mélanome, mais vous, alors, vous arrivez, qu'est-ce qui se passe?
Et donc, ce qui se passe, c'est un voyage qui dure une quinzaine de jours. Et sur ces 15 jours, on va voir différents guérisseurs, 4 au total, en fait. Alors, sur le premier, on arrive dans un ashram et on nous apprend à méditer. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même une pratique spirituelle, bien évidemment, et Je veux dire, dans toute guérison, il faut d'abord se connecter à son corps, à son âme, et être en présence avec soi-même pour décider de la guérison aussi. Le guérisseur, bien évidemment, va nous accompagner dans cette guérison, va enlever ce qui pourrait être toxique pour nous, mais nous, on a quand même le travail à faire aussi au point de vue, je veux dire, dans toute guérison, pour qu'elle soit efficace, il faut quand même changer quelque chose. Une maladie vient nous dire que on est sur un mauvais chemin, que ce que l'on fait ne fonctionne pas, ou que notre âme n'est pas OK avec ça.
Donc, le
Donc, il
premier jour,
faut.
on vous apprend à méditer. On vous apprend à
Oui.
méditer, à respirer peut-être, à utiliser des techniques de relaxation, utiliser des...
Voilà, on nous apprend à méditer en nous reliant d'abord à la terre-mère et puis à la source, où certains vont dire Dieu, hein, voilà, peu importe les croyances. En tous les cas, enfin, il nous oblige pas à rentrer dans une croyance, bien évidemment, c'est pas du tout l'objet. Par contre, le guérisseur, il vient avec nous méditer et donc on est en cercle où on se tient la main. Alors ça fait un peu gourou de secte, hein, vous allez me dire peut-être, mais pas du tout. On nous oblige à absolument rien. On nous demande de beaucoup nous reposer. Et puis, donc après la méditation, on a ce temps de repos. Et ensuite, eh bien, vient le temps où, eh bien, il va travailler sur nous. Donc, on va passer par quatre personnes, parce que nous, on est européens, on a besoin de croire en ce qu'on voit. Et donc, du coup, bah, pour que personne puisse dire qu'il y a une supercherie ou quoi que ce soit, eh bien, on vient par quatre. Comme ça, tout le monde peut voir ce qui se passe. Et donc, eh bien, on a des vêtements où on peut très rapidement se mettre en sous-vêtements, s'allonger sur une table. Et ensuite, le guérisseur, donc qui, lui, pendant la demi-heure où on était en repos, s'est mis en transe, hein, et donc capte des âmes supérieures guérisseuses, eh bien, va ensuite travailler sur nous. Il sait automatiquement, et on n'a pas besoin de lui dire ce qu'on a. On n'a pas be Moi, je lui ai pas dit j'ai la spondylarthrite, ou l'autre personne lui a pas dit j'ai un mélanome. Il sait automatiquement ce qu'il y a à faire. Hein, voilà. Est-ce que vous voulez que je vous explique concrètement comment ça se passe ou pas du
Ben oui, bien sûr, parce que là, on est attentif, mais oui,
tout?
mais alors, et alors, toujours, et alors, oui, qu'est-ce qui se passe? Parce que on nous dit, on sort un poulet du corps du patient, on sort des tripes de poulet, des choses comme ça. Alors, on dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce... Alors, comment pratiquement ça se fait? Vous êtes allongé en sous-vêtements, oui?
Exactement. Alors moi, comme c'était la première fois, quand j'y suis allée en 2018, la première fois, parce que j'y suis retournée l'année suivante, j'ai voulu voir ce qui se passait. Et donc j'ai gardé les yeux ouverts. Ils ne nous demandent pas de fermer les yeux ni rien du tout. On n'est pas anesthésié, il faut le savoir, hein. Donc et absolument, on ne reçoit pas de produits,
Vous
on
n'avez rien
n'avale
fumé.
rien, on nous fait boire rien, hein. D'accord? Il n'y a absolument rien. Voilà. Et donc
On
alors
n'est pas en
ce
état, on n'est pas en état d'hypnose, on n'est pas en état
non
de
plus
conscience, d'accord.
modifié non
Modifié
plus
non
oui
plus, d'accord.
simplement on a médité pendant une demi-heure, on s'est reposé pendant une demi-heure et ensuite on arrive et on passe les uns derrière les autres par groupe de quatre. Voilà. Et donc ben moi j'étais la première volontaire. Je voulais tellement voir ce qui allait se passer, et puis surtout j'avais tellement envie de guérir. Donc je me suis allongée sur la table et le guérisseur a mis ses mains dans mon ventre, le sang s'est mis à couler, les chairs se sont ouvertes sous ses mains, sans aucune douleur, je le précise, et puis il est allé retirer des tissus blancs, alors absolument pas un poulet ou des tissus de poulet, hein, je ne sais pas d'où ça sort et pourquoi ces personnes disent ce genre de choses. Je ne sais pas. Mais bon, voilà, je ne chercherai pas à savoir non plus. Ça les regarde. Mais en tous les cas, voilà ce qu'ils ont fait. Moi, il a retiré un grand tissu blanc. Peut-être comme des tissus. Je ne vais pas dire graisseux, hein, parce que c'était pas graisseux, mais peut-être alors, je ne sais pas. Ça existe les tissus conjonctifs.
Oui, bien sûr, un tissu conjonctif, oui. Ou un fascia, ça peut être un fascia aussi.
C'est ce qui me vient en fait. Plutôt tissu conjonctif. Et puis, il avait un assistant qui avait un verre d'eau. Et en fait, donc, il a mis ses tissus dans le verre d'eau devant nous. Donc, moi, je regardais. Je vous avoue que les larmes ont coulé parce que voir ça de ses propres yeux, c'est quand même, ça chamboule tous les champs de conscience que l'on peut avoir. C'est vraiment, enfin, super étonnant. Alors, il nous prépare bien, hein, avant. Il nous explique bien ce qui va se passer. Parce que ben, ça peut tellement chambouler, c'est tellement étonnant, que ça peut produire peut-être des réactions inappropriées. Et surtout, il ne faut pas bouger. Donc, on est très, très préparé. On nous a beaucoup expliqué ce qui allait se passer. Et donc, ça arrive déjà. D'ailleurs, j'ai brûlé une étape parce que la première fois, il fait simplement couler le sang pour qu'on voit ce qui se passe. Où il ouvre simplement le tissu, le sang coule et il referme immédiatement. En fait, ça se referme dès qu'il retire les mains. Hein. Il ouvre sur des points d'acupuncture. C'est ce qu'explique d'ailleurs Jeanine Fontaine dans son livre La médecine des trois corps 20 ans après. Hein, voilà.
Bon, et alors, on vous a enlevé donc cette membrane, ou enfin pour ça, membrane ou tissu, et ça a été mieux tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Non, ça n'a pas été mieux tout de suite. En fait, alors, moi, j'espérais la guérison totale. Et la première année, en fait, donc j'y suis allée, j'avais fait plein d'autres choses que j'explique dans mon livre aussi, hein, bien évidemment. Hein. La guérison n'a pas été uniquement avec les Philippines. Je crois qu'il ne faut pas attendre la guérison que de l'extérieur. La guérison, elle est très intérieure. Et nous sommes le maître à bord. Et donc, il faut écouter notre corps et savoir ce qu'il faut faire. Donc, en revenant des Philippines, donc j'ai vu d'autres guérisseurs et guérisseuses qui ne pratiquent pas de la même manière. Et tous ont une manière particulière de pratiquer. Et c'est très étonnant d'ailleurs. Donc, par exemple, il y a une guérisseuse qui, elle, a une assistante qui tient une Bible renversée et elle prend comme des piqûres sous la Bible renversée. Elle fait comme ça avec ses doigts. Et puis elle dit, bah, t'as mal ici. Et je dis, bah oui, c'est vrai. Elle me montre ma colonne vertébrale. Et donc, elle fait comme si elle injectait un produit avec une piqûre qui est invisible à notre œil. Et pourtant, on sent l'aiguille rentrer dans la peau. Et ça, c'est très étonnant. Alors, paraît-il qu'elle a hérité de la couronne d'épines. Ce qui fait que, effectivement, cette guérisseuse-là, particulière, ça fait mal quand elle pratique. Mais je l'ai vu faire des opérations, waouh, impressionnantes, hein. Et notamment pour ce monsieur qui avait un mélanome, elle a sorti un morceau de son intestin, elle a coupé, elle a sorti une boule de son intestin, elle a remis le tuyau dans le tuyau, j'ai envie de dire, ça s'est remis et elle a rentré tout à l'intérieur et ça s'est refermé. Alors, je sais pour les gens qui m'écoutent que vous allez penser que je suis tombée sur la tête et que je suis complètement, peut-être, folle. Je vous ai, enfin, tous les cas, pour les gens qui me connaissent, je vous assure que je suis pas folle. Je l'ai vu de mes yeux. Et surtout, ce qui s'est passé après pour lui, c'est que quelques mois après, j'ai pris de ses nouvelles. Et il m'a dit, écoute, je suis allée voir si j'avais à nouveau des taches sur la peau, faire ben, mon contrôle habituel. Et en fait, il n'y a plus de traces ni dans la peau, ni dans mes prises de sang, de mélanome. Donc, en fait, il était totalement guéri. Pour moi, ça n'a pas été le cas. Par contre, j'avais une douleur au niveau des dorsales hyper importante, à tel point que, en fait, c'était comme une plaie ouverte en permanence. Je pouvais pas m'adosser, c'était pas possible. Et notamment en plus sur les bancs dans les chapelles aux Philippines, les bancs sont en bois. Donc à chaque fois j'étais obligée de mettre quelque chose pour amortir parce que ça me faisait tellement mal. Et en fait quand j'ai été opérée par la dernière guérisseuse, elle m'a dit tu te mets sur le ventre. Donc on obéit quoi, hein, parce qu'en plus ils sont en transe, hein, on le voit. Hein, Et je veux dire, il y a 80 personnes qui passent à la file. Donc, faut pas perdre de temps parce que pour eux, ça leur prend énormément d'énergie. Donc, je me mets sur le ventre et là, immédiatement, elle a été dans mes dorsales. Et elle a retiré, je l'explique dans mon livre, une petite natte tressée et elle me dit, c'est de la magie noire qu'on a fait sur toi. Alors, vous voyez, là, on va dans des choses, hein. Peu importe, en tous les cas, peut-être que c'était des tissus, voilà, sous forme de, ils se sont un peu tressés, j'en sais rien. Enfin, peu importe ce que c'était, peu importe ce qu'elle m'a dit, moi, en tous les cas, ce que je sais, c'est que les tissus sont refermés. Je suis revenue à ma place complètement stupéfaite, une fois de plus, de ce qui s'est passé, parce qu'on l'est à chaque fois, évidemment. Et je me suis adossée sans m'en rendre compte. Et je continue de regarder évidemment ce qui se passe pour les autres qui passent. Jusqu'à un moment où d'un seul coup, j'ai réalisé que j'étais adossée contre le dossier en bois et que je ne ressentais plus aucune douleur. Mais je ne l'ai pas réalisé avant parce que j'étais tellement dans... Vous savez, ça chamboule tellement, en fait. C'est tellement impressionnant.
Oui,
Voilà.
c'est peut-être d'ailleurs le principal message des Philippines, à savoir que c'est un choc qui permet de redémarrer et de changer beaucoup de choses dans sa vie et des choses qui ont entraîné, qui ont fait qu'on arrivait dans cet état-là, quoi. En fait, ça vous a servi de détonateur. Alors après, est-ce qu'ils ont des pouvoirs? Sûrement, parce que bon, vous, ça vous a en tout cas, et puis maintenant, vous allez bien, hein.
Oui, je
C'est le
vais super
témoignage.
bien.
Voilà. Et votre livre, alors, il s'appelle comment votre livre?
Le jour où j'ai décidé de guérir.
Et voilà, ça, tout le programme est là. Tout le programme est là.
Voilà.
C'est-à-dire que, en fait, on a quelquefois besoin de guérisseurs ou de médecins extérieurs, mais le meilleur médecin, c'est le médecin intérieur.
Mais c'est clair, exactement, tout à fait.
Alors,
Oui.
n'ayons pas de regard un petit peu simpliste sur ces techniques de chirurgien ou de médecin ou de guérisseur philippin qu'on a peut-être tendance à facilement brancarder et qui sont peut-être facilement brancardables d'ailleurs, mais ils s'en moquent. Ils
Il
s'en
s'en
moquent.
moque,
C'est le
exactement.
résultat qui compte. Et après tout, si ce n'était qu'un effet psychologique, ben, au moins, c'est un effet de guérisseur. D'ailleurs, Molière l'avait dit, si on fait rire son patient, on l'a déjà guéri de moitié. Ben, pourquoi pas, à la limite. Donc, le moyen le plus simple pour aller aux Philippines, donc, c'est d'abord d'être patient, au sens
Oui.
large du terme. Et ensuite, donc, vous avez indiqué un site qui s'appelle Oasis.
Voyage, Oasis
Oasis
Voyage.
Voyage, voilà. Et
Voilà.
si on veut en savoir plus, eh bien, on a toujours la chaîne YouTube de Nathalie Balassé, Balacé, et son livre, et son futur livre. Merci Nathalie d'avoir témoigné, et puis à une
Est-ce
prochaine
que je peux
émission.
juste rajouter quelque chose?
Bien sûr,
Oui,
allez-y.
parce que nous sommes, nous, Européens, très cartésiens, on aime bien ce qui est prouvé scientifiquement. Et il y a un guérisseur qui s'appelle Alex Orbito qui s'est prêté au jeu des scientifiques et donc qui a fait tout un tas, toute une batterie de tests avec eux et qui a prouvé par rapport à l'effet placebo, par rapport à un médicament, qu'effectivement ce qu'il faisait était à 80% efficace hein, par rapport au placebo qu'il est à 25, je crois, ou voilà, hein, et à certains médicaments, ben, après ça dépend du médicament, mais en tous les cas, voilà, hein, ça a été prouvé par la science quand même, ce qu'ils font.
Mais la médecine n'est pas qu'une science, c'est aussi un art. Et
Bien.
donc, et c'est un art qu'on partage à deux avec le patient. Et à la limite, peu importe le moyen, la devise de l'école de Montpellier disait que ce qui était important en médecine, c'était déjà de ne pas rendre plus malade qu'avant. Et si on peut arriver à guérir, et quant à l'effet placebo, on en reparlera une autre fois, parce que d'abord, mettre effet et placebo, ça me semble un syllogisme, parce que soit il y a un effet, soit c'est placebo, mais on ne peut pas avoir les deux. Hein. Et
On est d'accord.
puis je crois que, en tout cas, d'essayer, quand on est dans un état qui est grave, et que la médecine n'a pas d'autre moyen que des soins palliatifs, entre guillemets, palliatifs, eh bien, je crois que d'essayer, pourquoi pas, des chamans, pourquoi pas
Exactement.
essayer des guérisseurs, pourquoi pas, dès l'instant où ce n'est pas toxique, après tout, c'est le résultat qui compte, et Descartes n'avait pas raison sur tout, sûrement.
C'est
En
vrai,
tout
mais il faut
cas,
aussi guérir sur le plan émotionnel. Ça, c'est très important.
ben oui,
Et
parce
il y a
que
une guérisseuse qui en parlait justement.
Mais oui, parce que les émotions, ont des impacts, parce que nous sommes pas qu'un corps.
C'est ça. Et les émotions se bloquent à l'intérieur de nous et bloquent les énergies, peuvent bloquer les fluides ou, voilà, en fait, empêche un organe de bien fonctionner et ça peut nous rendre malade. D'ailleurs, on le voit, hein, une contrariété peut nous rendre malade. Un enfant a mal au ventre quand il a mal vécu une journée à l'école avec un petit copain qui l'a embêté, hein,
Bien
voilà,
sûr.
hein, ou
On
quand
dit
il
bien
s'est
que
fait
ça bloque le
vraiment.
foie. Une émotion peut bloquer le foie complètement. Ben,
Mais
merci
c'est
beaucoup, Nathalie Balassé. À
toi.
bientôt et on en
C'est moi qui
reparle.
vous remercie.
Et puis donc, ben, à bientôt sur votre chaîne. Et puis on vous enverra les résultats. Et puis on vous tiendra au courant et vous tiendrez au courant de votre état. Mais vous avez l'air rayonnante en tout cas.
Ah, mais je vais super bien et tous les matins, je suis remplie de gratitude de me réveiller sans aucune douleur, ce qui n'a pas été le cas pendant presque 9 ans. Donc, forcément, après, on apprécie vraiment.
Bravo et bravo de partager. Merci beaucoup. Alors, si vous avez écouté le journal de la santé et du bien-être naturel jusqu'au bout, eh bien, je pense qu'on vous a au moins étonné, on vous a fait voyager, on vous a peut-être appris des choses, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'on vous a un peu diverti et puis donné des conseils qui pourront vous être utiles, à savoir, eh bien, vous en saurez plus sur l'agriculture biologique ou l'agriculture écologiquement correcte. Et puis, ben, vous ne regarderez peut-être pas les guérisseurs philippins sous un prisme un peu facile. Vous savez, il y a souvent eu des reportages qui ont tourné en dérision, ce genre de guérisseurs. Je crois que c'est pas si simple. Le binaire existe seulement en informatique pour moi. Dans la santé, sûrement pas. La santé est aussi une médecine, certes scientifique, mais est aussi un art. Les façons de le pratiquer sont parfois différentes. La pratique des chamans et la pratique des guérisseurs philippins en est une, qui mérite en tout cas d'être connue. Éventuellement d'être essayé. Quand on a essayé tout le reste, ça, comme dirait l'autre, ça ne mange pas de pain d'essayer. En tout cas, ce n'est pas dangereux. Et si ça peut faire du bien, bah, après tout, le médecin que je suis ne peut que vous encourager à essayer. Voilà. En tout cas, ce témoignage est assez édifiant. Nathalie Balassé est quelqu'un de sérieux. Donc voilà, j'ai préféré vous faire passer ce message et vous faire partager ce témoignage. À vous de réagir. Vous nous direz si ça vous a plu, si ça vous a convaincu, je ne sais pas. En tout cas, si ça vous a intéressé. Merci beaucoup et au mois prochain. Au revoir.